Merci à tous d'écouter France Culture, il est midi. Dans quelques instants, ce sera la première partie de La Grande Table, mais tout de suite les titres du journal à midi pile, présentés par Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Réunion à Rome des ministres des Affaires étrangères d'une vingtaine de pays de la coalition qui intervient déjà en Irak et en Syrie. La communauté internationale s'inquiète de l'escalade des activités de l'État islamique en Libye et envisagerait une intervention militaire. Il y aurait dans ce pays entre 3000 et 5000 combattants de l'EI. L'EI qui tenterait d'y attirer des centaines de recrues étrangères, dossier tout à l'heure suivi par Ludovic Piétenu. On essaiera aussi de tirer les enseignements des caucus de l'Iowa. Chez les Républicains, le sénateur du Texas, Ted Cruz, l'emporte devant Donald Trump. Ce dernier est par ailleurs talonné par Marc Rubio, le sénateur de Floride, candidat considéré comme plus modéré dans le camp républicain. Chez les démocrates, Hillary Clinton est accrochée par Bernie Sanders, qui fait pratiquement jeu égal avec elle. Commentaire avec notre invité François Durpère. L'Europe dévoile en ce moment même des propositions pour faire en sorte que le Royaume-Uni reste au sein de l'Union européenne, proposition parmi lesquelles un système dit de carton rouge qui permettrait à 55% de l'ensemble des parlements nationaux de l'Union de stopper ou de changer des lois européennes. C'est ce que demandait notamment David Cameron, précision avec Bruno Cadden. Et puis cette information qui concerne la bourse, la maison mère de Google, Alphabet, bien partie pour remplacer Apple comme première capitalisation boursière. On essaiera de savoir ce que cela signifie, en tout cas pour ce secteur. L'invité de la séquence interview, André Chassaigne, qui est député communiste du Puy-de-Dôme, qui sera avec nous en direct de l'Assemblée nationale. Voilà pour les titres, c'est à vous Caroline, La Grande Table.
Et nous commençons avec du grand spectacle, avec la musique de Cole Porter, qui est avec ses contemporains George Gershwin, Jerome Kern, Irving Berlin et Richard Rodgers, un des plus grands noms du musical. Et avec Cole Porter, Shakespeare se transporte à Broadway. Bienvenue à La Grande Table, merci d'être là juste un jour avant la première de Kiss Me Kate, la nouvelle production que vous mettez en scène au Théâtre du Châtelet. C'est à partir de demain donc et pour une dizaine de jours. Kiss Me Kate, c'est une production, un musical, une comédie musicale, on dit en français, qui a été créée par Cole Porter, composée par Cole Porter, pour Broadway. En 1948, et que voilà donc à Paris, au Théâtre du Châtelet. C'est votre sixième collaboration avec le Théâtre du Châtelet. On va y revenir dans le deuxième temps de cet entretien, Lee Blakely. Mais d'abord, un mot sur Kiss Me Kate. Est-ce que vous avez un amour particulier pour ce formidable musical qui est Kiss Me Kate ?
Tout à fait, j'adore ce spectacle. Et une des raisons pour cela, c'est que j'ai une passion pour le théâtre. Et ça fait passer toute ma vie à aimer. Et ce spectacle est justement une lettre d'amour au théâtre. On y voit tout ce qui est fantastique dans les coulisses, tout ce qui est difficile dans les coulisses aussi, tout ce qui est compliqué qu'on voit sur le plateau, tout ce qui est off et compliqué. Et donc, en tant que metteur en scène, c'est fantastique de pouvoir avoir ce spectacle qui montre toute la difficulté, tout l'amour, toute la dramaturgie, toute la danse, toute la comédie. C'est un spectacle qui a vraiment tout. Et en tant que metteur en scène, on peut utiliser toutes ces ficelles-là qu'offre cette partition, ce spectacle. Il y a de l'opérata, il y a des ballades à la Broadway. C'est vraiment une partition très riche et enthousiasmante. sur laquelle on peut travailler. Et j'adore ce spectacle.
Lettre d'amour, déclaration d'amour au théâtre, disiez-vous, Lee Blakely. Il faut dire que ce spectacle est une sorte de mise en abîme, puisqu'il y a une pièce dans la pièce. Je disais Shakespeare à Broadway, oui, les artistes sur scène, ce sont des comédiens, répètent, jouent une pièce de Shakespeare qui est la Mégère apprivoisée. Et donc, il faut arriver à jouer la pièce de Shakespeare en même temps qu'on joue cette pièce composée par Cole Porter, qui est Smicate. Il y a deux histoires, et deux histoires d'amour. C'est un vaudeville et c'est du Shakespeare en même temps. Comment on arrive à passer du vaudeville à Shakespeare ?
It's a very good question.
C'est une très bonne question.
One of the things that you're able to do with the language of Shakespeare.
Ce qu'on peut faire avec la langue de Shakespeare, puisqu'elle est tellement différente de la langue de ceux qui ont écrit des Québécois qui ont écrit ce livret, c'est qu'on peut jouer justement avec ces niveaux de langage. On peut aller vers une déclamation plus classique. Et visuellement, ce qu'on a fait avec Shakespeare sur le plateau et les coulisses, on les a traités très différemment. Et donc, la langue théâtrale, la langue sur le plateau est très différente. Toutes les coulisses montrent une langue beaucoup plus populaire, disons. La difficulté est de travailler avec des artistes qui ne sont pas forcément des acteurs shakespeariens. Et donc, on a passé beaucoup de temps avec eux à travailler le texte, la qualité du texte. Alors moi, j'ai été formé à la Royal Scottish Academy of Drama. Et donc, quelque part, c'est un peu ma maison. C'est quelque chose qui vraiment fait partie de ma formation. Et j'ai eu donc la chance de revenir à cela, à ce monde-là, et de redécouvrir comme c'est vital Shakespeare. Comme c'est fort, comme c'est vivant. Et donc le spectacle, à l'intérieur du spectacle, La Mégère apprivoisée, amène de la comédie, des moments de comédie. Il y a aussi beaucoup de joie qui arrive et qui se produit en visitant toutes les coulisses. On a deux personnages, on a Catherine et Petruccio qui sont en guerre en fait. Et Fred et Lily qui jouent ces personnages sont aussi en bataille sans cesse. Et il y a un écho finalement à ce que raconte la pièce de Shakespeare. C'est un petit peu comme le couple Burton-Taylor qui d'ailleurs eux-mêmes avaient joué La Mégère apprivoisée. Et on peut voir ce parallèle vraiment entre ce qui se passe sur le plateau, entre ce qui se passe dans leur vie, dans les coulisses du spectacle, et c'est assez similaire, les personnages que l'on a là. Ces personnages extrêmement enfiévrés. Et donc on a essayé de, pour définir ces deux mondes-là, celui du spectacle dans le spectacle et celui des coulisses, de vraiment définir deux univers visuels différents aussi.
Pour qu'on ne soit pas perdu, et nous ne sommes pas perdus, Lee Blakely, en effet, puisque ça parle d'amour, ça parle de ces rapports houleux entre un couple sur scène et entre un couple, comme vous le disiez, Fred Graham et Lily Vanessi, mais entre un couple qui joue dans la pièce de Shakespeare et on passe de l'un à l'autre de façon très fluide. De la comédie, du vaudeville, des relations entre hommes et femmes, du Shakespeare, différents niveaux de langage, différents espaces visuels et bien sûr beaucoup de musique, beaucoup de danse, des chansons qu'on connaît bien comme celle-ci.
Strange dear, but true dear, when I'm close to you dear, the stars fill the sky, so in love with you am I. Even without you,
the night when you first were there, in love with my joy delirious, when I knew that you could care. So taunt me.
So in Love, l'une des chansons les plus fameuses de ce Kiss Me Kate, chanté là par David Pitzinger, qui est dans votre distribution, Lee Blakely. Une chanson enregistrée au studio 106 pour France Musique fin janvier, diffusée le 30 janvier dernier avec les comédiens et une pianiste. Nous avons eu la chance de pouvoir récupérer cet enregistrement. Dans la mise en scène que vous avez choisi de faire, Lee Blakely, les chansons mettent parfois deux ou trois temps avant de finir. Je m'explique. La chanson se finit sur scène, les spectateurs applaudissent, puis la chanson reprend pour enchaîner. Est-ce que c'est une de vos particularités à vous ? Est-ce que c'est aussi avec le directeur musical au Châtelet que vous avez décidé de faire cela ? Ou est-ce que c'est la structure des chansons de Cole Porter qui veut cela ?
C'est la structure de Cole Porter qui amène à ça. Les bis sont en fait écrits sur la partition et donc nous les jouons. So in Love que on vient d'entendre, Lily la chante d'abord dans le premier acte et elle parle de sa grande relation avec Fred Graham. Ils sont divorcés et on comprend maintenant dans la scène que Lily quand elle la chante dans l'acte 1, donc c'est une plus longue version, et on comprend la nature de leur relation, en fait. La chanson va revenir dans l'acte 2, et c'est un miroir des sentiments de Fred pour Lily. Et donc, cette chanson est utilisée dans le premier et le deuxième acte, et est donc utilisée en écho l'un à l'autre. Dans d'autres numéros musicaux, les bis, les retours de la mélodie sont fantastiques. Par exemple, dans Another Opening, Another Show, qui ouvre notre spectacle, avec beaucoup de danse aussi, reprend aussi plus tard. Et ça nous aide beaucoup que Cole Porter a prévu cela, parce que ça nous permet de changer, de passer d'une scène à l'autre. Et donc, on utilise ce moment de la partition pour passer d'une scène et d'un moment de la soirée à un autre. C'est donc quelque chose que l'on utilise dramatiquement. Dans le fait, on a souvent ça. Par exemple, « Always true to you in my fashion » est interprétée par Francesca Jackson d'une façon très comique. Et elle a trois bis, elle a trois reprises de la mélodie qu'elle peut interpréter. Et chaque fois, c'est plus fort. On a l'impression que Cole Porter écrivait en améliorant chaque fois sa partition. Il essayait d'aller, de faire plus fort à chaque fois. C'était comme un jeu qu'il jouait avec lui-même. Mais ils sont vraiment tous écrits. Et puis Brush Up Your Shakespeare, qui est une des airs les plus célèbres de la partition. Les deux acteurs qui jouent ce spectacle et ce morceau, on les laisse vraiment se balader dans tout le théâtre, on les laisse vraiment à s'aventurer. Ils font partie vraiment quelque part du public et ils prennent part.
Ils sont un peu comme pour nous, on dirait les Dupont hein, dans Tintin. Je ne sais pas si c'est une référence qui vous parle ou Laurel et Hardy. Ces deux-là.
Laurel et Hardy, vraiment, ça a été. On voit vraiment dans la façon dont on a choisi les acteurs pour le spectacle. Danny Robinson, ils ont vraiment une relation à la Laurel et Hardy, tous les deux. C'était ce que je voulais. Je voulais qu'ils soient vraiment très compréhensibles et que vraiment on les voit très clairement. Quand ils sont sur le plateau, on voit tout le temps où ils sont, on les repère tout de suite. Et en général, ils portent des costumes très peu appropriés. Et chaque fois qu'on les voit, on a envie de les voir plus.
Ils participent vraiment de la comédie.
Tout à fait.
The girls today in society go for classical poetry. So to win their hearts, you must quote with these Aeschylus and Euripides. But the poet of them all, who will stardom simply
lovely raven is the poet people call, the Bard of Stratford-on-Avon. Brush up your Shakespeare, start quoting him now. Brush up your Shakespeare, and the women you will wow. Just to claim a few lines from Othello, and I'll think you're a heck of a fella. If your blonde won't respond when you flatter her, tell her what pony told Cleopatra. And if still to be shocked she pretends, well, just remind her that all's well
that ends well.
Brush up your Shakespeare, and they'll all bow down.
Brush up your Shakespeare dont vous parliez, Lee Blakely, qu'on pourrait traduire, enfin c'est ce que vous faites en tous les cas au Théâtre du Châtelet à Paris, par potasser votre Shakespeare. On l'entendait là, non, dans la version que vous produisez, bien sûr, au Châtelet, puisqu'elle ne commence que demain et que nous avions que quelques chansons enregistrées sur France Musique, mais dans une version cinématographique, puisque Kiss Me Kate a été adapté au cinéma par George Sidney en 1953. Eh bien, justement, ça me permet de vous poser une question sur le rapport au cinéma. Vous avez parlé de Laurel et Hardy, du couple Burton-Taylor. Est-ce que vous vous êtes inspiré du cinéma ? Parfois même, dans votre production, on est comme dans un film muet. Les instruments de la fosse accompagnent les gestes des comédiens sur scène. Quel a été votre rapport au cinéma pour cette production ?
Yeah, there is...
Oui, c'est encore pour choisir une grande variété de styles. Sur le plateau, on est allé vers la commedia dell'arte parfois, pour articuler quelque chose autour de Shakespeare, pour montrer quelque chose, pour les moments de comédie aussi. Ce sont des choix stylistiques qu'on a trouvé petit à petit dans les répétitions. Toujours essayer de garder une grande variété d'expressions et tout le temps être varié. Et quand le spectacle a été écrit en 1948, il arrive à un moment où le cinéma est un art complètement autonome, à ce moment-là, une langue. Il y a aussi cette grande époque des grandes comédies musicales Rodgers et Hammerstein. C'est vraiment la grande époque de ce genre de production-là, à l'écran. Et on est aussi dans une époque de jazz, l'époque du vaudeville, de la comédie sur le plateau, ce qui est un genre de spectacle très particulier. Et donc, on a pris des éléments du vaudeville, de jazz, mais c'est vrai, on a aussi regardé ce que c'était que le cinéma à l'époque. Et ce qu'on a emprunté au cinéma, c'est la stylisation pour les quatre personnages principaux. Ces spectacles ces gens qui jouent dans le spectacle et qui sont dans les coulisses. On a essayé de leur trouver un style comme pour Lily Vanessi. Pour elle, on a essayé d'en faire une grande dame hollywoodienne. Il y a des moments où elle ressemble à Joan Crawford, des moments où lui, il ressemble à Clark Gable. Ce sont des figures reconnaissables pour le public. Ce sont des gens que l'on connaît, pas seulement du théâtre. On connaît leur histoire, on le sait qu'elle travaille au cinéma, le personnage, et ils sont, en tout cas, stylisés vraiment dans le monde des très hollywoodiens, des studios des années 40. On est allé vraiment, on a fait des recherches autour des grandes stars du cinéma à l'époque. On se demandait qui ce serait vraiment dans le cinéma de l'époque. Et Brigitte, qui a fait les costumes vraiment et qui a créé un monde extraordinaire sur le plateau, a travaillé dans ce sens. Et ça a été vraiment très très fort pour elle, et un très grand travail de justement trouver la bonne lisière entre le monde des coulisses et le monde de ce Shakespeare qu'il joue sur le plateau.
Vous êtes britannique, Lee Blakely, c'est la sixième comédie musicale que vous montez pour le Théâtre du Châtelet à Paris. On sait que les comédies musicales sont plutôt des productions américaine, que d'ailleurs le public français commence à peine à découvrir réellement ce que sont les musicals grâce au travail que fait Jean-Luc Chopelin au théâtre du Châtelet. C'est intéressant de savoir ce que peut faire de particulier un Anglais d'une comédie musicale américaine pour un public français. Est-ce que vous aviez ça en tête aussi? Ou est-ce que comme c'est la sixième que vous faites déjà, vous n'y pensez plus à cette différence d'accueil entre le public français, le public britannique ou le public américain?
Si je commence à y réfléchir, à comment est-ce que je dois mettre en scène un spectacle américain en tant que britannique pour un public français, je me noierais. Il s'agit, j'ai l'impression, finalement, de réagir à ce que c'est que le spectacle, à ce que c'est que la partition, à ce que c'est que le livret. Et ma première réaction là-dessus est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est ce que j'essaie finalement je ne commence pas du tout à partir d'une page blanche. Dès qu'on m'a proposé de travailler sur ce spectacle, je ne me suis pas tellement finalement imbibé du film qui existe. J'ai essayé de trouver finalement mes réponses à moi. Effectivement, il y a pas mal d'éléments de langage qui sont assez compliqués et assez sophistiqués. Et je voulais pas simplifier les choses et prendre le public français de haut là-dessus. J'ai voulu vraiment jouer franco et rendre les choses certaines. J'ai voulu rendre les choses accessibles peut-être, mais sans les simplifier. Il ne faut pas vraiment du tout prendre le public de haut. Il faut lui montrer les qualités du spectacle tel qu'on le voudrait les montrer à Broadway ou dans le West End. C'est possible d'ailleurs au Châtelet. Les spectacles que je mets en scène, je les fais ici, à Paris, de la même façon dont je les mettrais en scène en Amérique ou à Londres. Et je trouve clairement que ça fonctionne, parce qu'il y a des productions du Châtelet qui aujourd'hui voyagent et tournent aux États-Unis. Singing in the Rain, par exemple, tourne. Il y a un Américain à Paris aussi qui tourne beaucoup. Ma mise en scène de Sweeney Todd a été montée à Houston et à San Francisco l'an dernier. Et dans 2 mois, on prend notre production du King and I, le roi et moi, et on l'emmène aussi en Amérique. Donc on voit bien que en mettant en scène ces spectacles-là qui doivent fonctionner pour un public français, on voit qu'on fait quelque chose qui fonctionne pour le public américain. La façon dont on aborde ces œuvres-là, c'est qu'on essaie de prendre vraiment les meilleures histoires et de les raconter avec tous les éléments et toutes les possibilités que le Châtelet nous offre.
Vous êtes, Lee Blakely, non seulement un metteur en scène de musicals, désormais, mais un metteur en scène d'opéra également. Vous faites autre chose que des musicals. Quelle est la plus grosse difficulté pour vous quand vous montez une comédie musicale? Ou peut-être même le plus grand défi? Est-ce que votre envie, c'est avant tout de faire un grand spectacle ou un beau spectacle? Complet, il faut arriver à passer des textes aux chansons, que ça s'enchaîne de façon fluide, puis il y a la danse. Là, en plus, vous rajoutez une difficulté, puisque c'est Shakespeare qui est joué dans une... Enfin, comment aborde-t-on une comédie musicale comme Kiss Me Kate de Cole Porter?
Ce qu'on fait, on prend les paris qu'offre et que présente la pièce, le texte. C'est pas tellement ce que je cherche moi à en tirer, c'est vraiment qu'est-ce que demande, qu'est-ce que réclame le spectacle. Pour Kiss Me Kate, on savait que l'on commence finalement dans une salle de répétition. Et donc, l'espace doit vraiment évoquer une salle de répétition. Et 30 secondes plus tard, littéralement, il faut qu'on se trouve dans un couloir des coulisses. Et quelques minutes après, il faudra qu'on soit dans une loge. On y reste pendant 10, 12 minutes et après, il faut qu'on retourne dans les coulisses. Et après, il faut qu'on voit le plateau, ce qui se passe sur scène. Et donc, ça arrive beaucoup plus dans les musicals que dans les opéras. Il faut passer par des scènes, beaucoup de scènes et avancer d'une façon fluide, d'un espace à l'autre. Le pari est donc à résoudre. Et donc, comment trouver une solution pour travailler et pour bouger et pour avancer d'un endroit à l'autre. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est que je dois essayer donc de proposer un monde et un visuel sur le plateau qui est sans cesse changeant. Et si jamais on essaie d'appliquer des concepts préexistants à une pièce comme ça, on n'est pas au service de l'œuvre, ça ne fonctionne pas. Il faut sans cesse pouvoir signifier au public très clairement, voilà, là vous êtes sur le plateau, là vous êtes en coulisses. Quand on montait Sweeney Todd, c'était assez différent. Là, on avait vraiment un monde, un univers. Et toutes les scènes pouvaient finalement découler de ce monde unique. Il y avait une grandeur, il y avait quelque chose d'assez grandiose dans ce travail-là. On avait vraiment un décor principal qui pouvait représenter tout. C'était la solution qu'on avait trouvée pour ce spectacle-là, en tout cas. Donc ce que je fais, c'est que j'étudie le livret, et j'essaie de voir comment je réagis, comment moi je peux créer, comment je peux apporter quelque chose avec mon équipe, comment est-ce que l'on peut créer un voyage, un cheminement pour le spectateur. Pour Kiss Me Kate, c'est ça qui est tellement fantastique, c'est que plus on avance, plus on s'approche de la finition du spectacle, puisqu'on a vu les répétitions et on va voir les représentations. Plus on avance, finalement, on arrive finalement, à la fin de l'acte 2, à un final à la MGM. Et on revient là à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a des références cinématographiques. Et je voulais donc, pour cela, avoir un grand final très cinématographique. Et puis, à travers le texte, en travaillant le texte, on avance dans notre connaissance des personnages. On essaie vraiment de les fouiller. On fait pour cela beaucoup de préparation avant même de commencer nos répétitions. Et c'est un travail que j'aime faire très, très profondément avec les acteurs, un par un. On essaie de découvrir ce qu'ils peuvent apporter au rôle. Et quelle est la meilleure façon de rendre ces acteurs-là brillants dans leur rôle? Et moi, je ne cherche pas du tout à dicter quoi que ce soit et à prendre une place trop importante. Il faut vraiment comprendre comment on va défendre ces personnages à l'intérieur du monde que l'on propose au public. Et donc on avance, et dans le travail, on ajoute toujours quelque chose, de la substance à chaque fois. Vous savez, on a commencé à répéter ce spectacle il y a le 14 décembre, donc c'était l'année dernière. Mais en fait, on a commencé les décors il y a 12-14 mois. C'est le temps qu'il nous faut pour créer un monde dans lequel on va mettre des personnages vivants pendant nos répétitions. Another opening, another show in Philly, Boston or Baltimore. A chance for stage folks to say hello. Another opening of another show. Another job that you hope at last will make your future forget your past. Another pain where the ulcers grow. Another opening of another show. 4 weeks you rehearse and rehearse. 3 weeks and it couldn't be worse. 1 week will it ever be right? Then out of the heart it's that big first night. The overture is about to start. You cross your fingers and hold your heart. It's curtain time and away we go. Another opening of another show. 4 weeks you rehearse and rehearse. 3 weeks and it couldn't be worse. 1 week will it ever be right? Then out of the heart it's that big first night. The overture is about to start. You cross your fingers and hold your heart. It's curtain time and away we go. Another opening, just another opening of another show.
Jasmine Roy, enregistrée sur France Musique le 30 janvier dernier. Another opening qui ouvre Kiss Me Kate. Eh bien, nous refermons l'émission avec vous, Lee Blakely, et avec cette chanson. Merci beaucoup d'être venu à la grande table. Kiss Me Kate, c'est au Théâtre du Châtelet à Paris à partir de demain soir et jusqu'au 12 février. Courez pour prendre des places si vous pouvez voir ce spectacle. Vous ne le regretterez pas. Merci beaucoup d'être venu au micro de la grande table.
Plaisir.
Un plaisir.
Et merci beaucoup à Harold Manning qui a assuré la traduction simultanée de vos propos.